Le magazine des Nations Unies.
Reprise du procès de l'assassinat de deux experts de l'ONU dans le Kasaï. Une équipe des Nations Unies à pied d'œuvre à Kananga. Les termes de son mandat, c'est dans cette édition. Vers une gestion foncière communautaire participative à Djougou dans la province de l'Ituri, un protocole de mise en œuvre de ce projet a été signé entre le gouvernement provincial et le programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitat. Les détails également dans ce magazine. Et puis célébration des 20 ans de la Cour pénale internationale. À Kinshasa, l'événement a été marqué par l'organisation d'une conférence au ministère des Affaires étrangères. Les détails dans un instant.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. Les experts de l'ONU ne mènent pas d'enquête indépendante dans le meurtre des deux experts onusiens assassinés en mars 2017 dans le Kasaï, mais apportent plutôt un appui conseil à la justice congolaise. Précision du procureur canadien Robert Petit, qui dirige cette équipe d'experts. Il a été l'invité à la conférence hebdo des Nations Unies ce mercredi. Robert Petit explique le mandat de l'équipe qu'il dirige dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Lali Coco.
C'est un mandat d'appui-conseil à la juridiction congolaise, qui est la seule qui a l'autorité légale et la responsabilité de mener à bien la recherche de la vérité et les enquêtes et les procès pour ces meurtres. Pour être bien clair, nous n'avons pas aucune autorité d'enquête indépendante. Nous sommes là pour appuyer la juridiction congolaise dans sa démarche. Pour ce faire, notre mandat comprend des experts qui sont déployés à Kananga, qui ont des expertises en enquête criminelle et qui travaillent avec le parquet militaire congolais et qui l'appuient dans leur démarche, leur suggérant des mesures d'enquête diverses, la responsabilité enfin de suivre ces conseils et de l'enquête comme telle relève encore une fois, comme je l'ai dit, de la juridiction congolaise. Nous n'avons donc aucun pouvoir indépendant et notre mandat, c'est d'interagir avec la justice congolaise.
Robert Petit est l'invité du magazine des Nations Unies. Autre chose, le gouverneur de l'Ituri, Jefferson Abdallah Penembaka, et le directeur pays de l'ONU Habitat en République démocratique du Congo, Abel Wallendom, ont signé fin août 2018 un protocole de mise en œuvre du projet de planification communautaire foncière participative, PCFP, un projet qui cible les groupements Mayalibo de la chefferie de Ma, du secteur de Walendu-Jansi. C'est à Bounia que la cérémonie officielle de l'événement a eu lieu. Honoré Missenga Kalala revient sur ce projet avec plus de détail.
Le projet PCFP est financé par le gouvernement britannique, selon un communiqué de presse de l'ONU Habitat parvenu à Radio Kapi. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie internationale de soutien à la sécurité et la stabilisation dans l'est de la République démocratique du Congo. Le protocole d'accord signé à cet effet entre l'administration provinciale de l'Ituri et l'ONU Habitat porte notamment sur la modernisation de l'administration foncière, le partage et la dissémination des outils pro-pauvres pour une gestion foncière inclusive. Le deal entre les deux parties comprend trois engagements pris par l'ONU Habitat: appuyer l'administration foncière du site pilote du projet en équipement de collecte et traitement des données foncières, renforcer les capacités techniques et administratives du personnel des services œuvrant dans le secteur foncier et enfin mettre en place un système d'information foncière et d'archivage opérationnel au sein du bureau de l'administration foncière du territoire de Djougou. Pour la partie congolaise, le gouvernement de la province de l'Ituri s'est engagé à se charger de l'exécution de l'accord signé, notamment par la mise en place de la commission mixte et le suivi dans la mise en œuvre du plan communautaire d'utilisation des terres du site pilote. Le gouvernement provincial de l'Ituri s'est aussi engagé à faciliter la reconnaissance des initiatives de développement des outils pour pauvres, des sécurisations alternatives des terres pour l'intérêt des populations, entre autres. Le projet PCFP veut répondre principalement à une triple problématique: renforcer la légitimité de l'État congolais en matière d'administration foncière, renforcer la résilience socio-économique des populations et enfin protéger les droits des personnes vulnérables, notamment les femmes et les jeunes.
Et puis nous le disions dans le sommaire, la Cour pénale internationale vient de célébrer les 20 années de l'adoption du statut de Rome. C'était donc le 17 juillet 1998 que 120 États contre 7 avaient voté le statut de Rome, dont la mise en œuvre a eu lieu en 2002. Pour commémorer cette adoption, le bureau de la CPIRDC à Kinshasa a organisé mercredi 5 septembre 2018 au ministère des Affaires étrangères une conférence dite de haut niveau au cours de laquelle plusieurs exposés ont été développés sur le bilan de ces 20 ans et les perspectives d'avenir. C'est un reportage signé Jeff Ngoy.
20 ans après, les observateurs conviennent aujourd'hui que la Cour pénale internationale est passée de fantasme du statut de Rome à une cour réellement fonctionnelle. Plusieurs progrès sont considérablement notés, notamment en matière de la lutte contre l'impunité. De 3 crimes graves, dont crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, désormais la CPI est compétente des crimes d'agression. Au nombre de situations, son juge, le Congolais Antoine Mundoua, en dresse ici le bilan.
À ce jour, la Cour a été saisie de 26 affaires, dont certaines comportaient plus d'un suspect ou accusé. Les juges de la CPI ont délivré 32 mandats d'arrêt et grâce à la coopération des États, 9 personnes ont été détenues au quartier pénitentiaire de la CPI et ont comparu devant la cour. 15 personnes sont toujours en liberté.
En dépit de ces progrès, Mundoua signale un contexte hautement politisé auquel la CPI fait face auprès des membres du Conseil de sécurité de l'ONU tout en préservant son indépendance.
Les injonctions politiques et des problèmes de coopération avec les États. La Cour évolue dans un contexte hautement politisé, je vous l'ai dit. Elle doit ainsi trouver un équilibre fort délicat entre l'indépendance et l'impartialité de la justice d'un côté et les considérations politiques complexes de l'autre.
Pendant 20 ans, que peut-on retenir en matière de coopération entre la CPI et la RDC? Le point focal de la Cour en RDC, le professeur Luzolo Bambi en retrace quelques lignes.
Le bureau du procureur avait ouvert des enquêtes pour les crimes commis en Ituri et au Sud Kivu. Ces enquêtes ont conduit à l'ouverture de 5 affaires concernant respectivement M. Thomas Lubanga, Germain Katanga, Mathieu Ngunjolo, Bosco Ntaganda et Mbarushimana. Effectivement, notre coopération a permis l'arrestation et la remise de 3 de ces précités à la Cour pénale internationale, notamment la remise de M. Thomas Lubanga, la remise de M. Mathieu Ngunjolo et la remise de M. Germain Katanga.
Les États-Unis, la Chine et la Russie ont témoin à dire sur les activités de la CPI alors qu'ils ne sont pas partis au statut de Rome. C'est une ambivalence du statut. Il faut continuer de soutenir la Cour pour endiguer l'impunité et convaincre ses tiers à y adhérer, recommande le juge Mundoua.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le programme multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida, PNMLS, avec l'appui de l'ONU-Sida, a remis mardi dernier le premier prix spécial VIH-Sida 2017 à 2 médias. La cérémonie a été présidée par le représentant du ministère de la Culture et Arts. Et selon le PNMLS, ces 2 médias se sont illustrés dans leur programme par la diffusion des spots et la sensibilisation de la lutte contre les VIH-Sida ces dernières années. Le professeur Livin Capent du PNMLS s'entretient sur ce prix avec Jean-Pierre Hilali. Ikoko.
Professeur Liévin Capende, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Aujourd'hui, le PNMLS, avec l'appui de l'ONU-SIDA, vient de décerner un prix à 2 organes de presse. Pourquoi est-ce que ces 2 organes ont été plébiscités?
Bien, merci pour cette opportunité. Je dois dire qu'au-delà de ces 2 organes de presse, c'est en fait un prix décerné à toute la presse. Toute la presse, parce que depuis le début de la pandémie, la presse est toujours très impliquée. Hein, et nous pensons qu'après évaluation, que si aujourd'hui nous avons un taux de prévalence relativement bas, c'est parmi les contributions importantes, il y a celle de la presse. D'abord les radios. Les radios, à cause de leur rayonnement, hein, je pense que vous savez que dans le pays, la radio, pour le moment, est un instrument qu'on trouve un peu partout. Donc, nous pensons du fait d'avoir continué à travailler avec la radio, hein, ces médias ont pu diffuser suffisamment les mériades. Mais c'est pourquoi les 2, radio paro éternelle, hein, peut-être que vous n'avez pas l'histoire, cette presse a commencé la lutte contre le sida sans appui de la Banque mondiale. Il a suffi tout simplement qu'elle soit touchée par le message. Donc, avec le projet MAP, on a demandé à nos équipes de faire la sensibilisation. et quelqu'un de la parole éternelle. Quelqu'un de parole éternelle a été touché par ce message et depuis lors, sans attendre un financement de la Banque mondiale, il a commencé à faire ce travail. Pourquoi Top Congo? Top Congo, la même chose. Top Congo, effectivement, a bénéficié d'un financement Banque mondiale au tout début. Mais comme vous le savez, la Banque mondiale avait clôturé le projet en 2011. Et si vous êtes dans la ville, vous avez toujours entendu, chaque fois qu'ils lançaient leur journal, Top Congo a continué à diffuser le message de lutte contre le sida. Pour ces raisons-là, hein, ces deux radios méritent un prix, hein, peut-être une première, mais il y a peut-être d'autres qui ont mieux fait que ça. Mais à notre connaissance, voilà ce que nous avons apporté comme témoignage.
Merci pour le choix, mais alors quel est le contenu de ces prix?
Le contenu de ce prix, il est tout à fait symbolique d'abord. Hein. Je n'ai pas besoin de dire ce qu'on a mis dedans. Mais je pense que c'est le contenu, c'est la reconnaissance. La reconnaissance du travail abattu pour le bien-être du peuple congolais.
J'ai vu un brevet.
Ce brevet, c'est un brevet, comme je disais, c'est tout à fait symbolique. C'est, bon, c'est un document qui a été imprimé. Il y a peut-être quelque chose derrière, mais je pense que au-delà de cela, c'est la reconnaissance. Mmh. La reconnaissance est vraiment le contenu de ce prix.
Mais professeur, puisque nous sommes ici au PNMLS, est-ce que vous pouvez à cette occasion nous dire l'état des lieux de prévalence du VIH-Sida en République démocratique du Congo?
Oui, disons que d'après les dernières estimations, on était à 1,2 il y a 4 ans maintenant. Mais la tendance est encore à la baisse. On avoisine à peu près 1% pour le moment.
Maintenant que ce prix est donné, ça c'est l'édition 2017, la première édition.
La première.
Et la prochaine édition?
Ben, ça dépendra du comité sectoriel de la presse qui s'occupe de presse et médias.
Professeur Radio Kapi, vous remercie.
Je vous en prie.
Mettre en place des projets communautaires impliquant réfugiés centrafricains, populations autochtones, dans les milieux d'accueil au Nord-Ubangi et au Bazuélé. Telle est l'approche du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans son mandat dans cette partie du territoire congolais. Une approche dictée par le souci pour le HCR et ses partenaires d'assurer l'autonomisation des réfugiés et en même temps d'encourager les familles d'accueil pour leur hospitalité. Au nom de ce projet dit à participation communautaire, le service de communication du HCR Nord-Ubangi cite notamment la distribution des intrants agricoles et de pêche aux familles d'accueil et aux réfugiés hors camp, le renforcement des infrastructures sociales de base dans les villages d'accueil et dans les camps de réfugiés tels les forages. Dans ce même état d'esprit, le HCR Nord-Ubangi constate avec satisfaction, par exemple, que dans les camps de Moké et Inké, les parents d'élèves et les enseignants, ainsi que les groupements des réfugiés, secondés par les humanitaires, se sont facilement impliqués tous dans la fabrication des briques adobe pour la construction des nouvelles salles de classe. Du nord du pays, rendons-nous au centre dans l'ex-grand Kessai avec le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH. Le BCNUDH donc a organisé au cours des deux dernières semaines plusieurs séances de renforcement des capacités au bénéfice des différents acteurs sociaux et militaires à Kananga, au Kassai central, et à Chikapa, au Kassai. Une quarantaine de membres de l'ONG Action Internationale pour les Droits de l'Homme et une quinzaine d'officiers entre autres ont été formés aux concepts fondamentaux des droits de l'homme, à la violence sexuelle également. Et pour les officiers militaires, l'accent de leur formation a été mis sur le rôle de l'armée dans la prévention des violations des droits de l'homme, des violences sexuelles et des graves violations des droits de l'enfant. Et à propos des enfants justement, la section protection de l'enfant de la MONUSCO a documenté 224 violations graves commises à l'encontre des enfants dans le contexte de conflits armés en RDC, une situation du mois d'août 2018. Et selon la section protection de l'enfant de la MONUSCO, les enfants sont restés vulnérables aux activités intenses des groupes armés et milices dans les quatre coins du territoire congolais. Près de 40% des violations documentées pendant cette période viennent du Nord Kivu, un tiers du Kassai et du Kassai central, et le reste de l'Ituri et du Sud Kivu, précise la MONUSCO.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Une semaine après la reprise, le 27 août dernier, du procès du meurtre de deux experts de l'ONU au Kassai, Robert Petit assistait lundi dernier à l'audience au tribunal militaire garnison de Kananga lors de sa visite dans cette ville. Le procureur canadien a été nommé en novembre 2017 pour diriger une équipe d'experts qui appuie l'enquête de la justice congolaise dans cette affaire. Robert Petit est interrogé ici par Joël Bofengo.
Robert Petit, bonjour.
Bonjour.
Le procès sur le meurtre des experts de l'ONU a repris depuis une semaine. Comment avez-vous réagi à l'annonce de la reprise de ce procès?
On est là pour assister les autorités congolaises dans leur démarche d'enquête. Le procès doit aboutir. On est évidemment là à évaluer là, comment ajuster notre assistance par rapport à cette reprise de procès. Mais justice doit être rendue.
Le procès avait été suspendu officiellement pour permettre au ministère public d'avancer dans les enquêtes. Est-ce que les enquêtes ont suffisamment avancé pour que cette fois si les procès aillent jusqu'au bout?
Écoutez, nous sommes là pour assister la justice congolaise. C'est sa responsabilité de mener ses enquêtes. Nous sommes là pour la conseiller. Nous n'avons aucune autorité. Ça sera à elle de juger là, le moment, l'évaluation des procédures et de prendre des décisions en conséquence. Ce ne sera pas moi à commenter là, sur leur juridiction.
Parce que vous êtes là pour aider la justice. Comment se passe votre collaboration avec la justice congolaise dans la conduite des enquêtes?
Pratiquement, il y a 4 experts, des enquêteurs expérimentés qui sont assignés à Kananga en rotation et qui travaillent avec le parquet qui a juridiction sur le dossier et qui leur fournissent appui, conseil pour leur faire bénéficier là, donc de leur expertise dans la conduite de l'enquête essentiellement. Et mon rôle est de superviser cette assistance et de faire la liaison avec, entre autres, de faire la liaison avec le gouvernement de la République et avec les autres instances, les autres parties concernées.
Pour le moment, comment ça se passe?
Écoutez, on travaille, on est là depuis novembre. L'année dernière. Il y a toujours des périodes d'ajustement, il y a toujours des ajustements en cours de route à faire, surtout quand on parle de coopération entre juristes. On peut avoir 2 avocats et 3 opinions différentes, mais aussi évidemment avec des personnes qui proviennent de différentes perspectives. Mais la coopération continue.
Selon certaines informations, certains services de sécurité congolais entraveraient la conduite des enquêtes. Est-ce que vous avez fait le même constat?
Je ne commenterai pas là-dessus. C'est des commentaires que d'autres font, pas moi.
Il y a le cas de José Chibwabwa et Thomas Kachama. Ce sont 2 agents de l'État qui ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire, mais qui ne sont toujours pas déférés devant les tribunaux. Est-ce que vous êtes au courant de ça?
Je ne peux pas commenter sur des faits d'enquête, puisque c'est, comme je dis, dans la juridiction des autorités congolaises. Donc je ne peux pas commenter là, sur des spécificités du dossier.
Les experts de l'ONU ont été tués il y a une année. Sauront-on un jour la vérité?
C'est ce que j'espère. C'est ce que les familles espèrent. Les familles aussi des Congolais qui sont disparus et présumés décédés. Toutes ces familles, comme toutes les familles de victimes, ont droit d'avoir leur vérité. Comme je l'ai dit aux familles, ce qu'on peut leur promettre, c'est de faire de notre mieux pour assister la juridiction congolaise pour arriver à cette vérité-là un jour.
Est-ce que vous estimez qu'actuellement tout est fait pour que la vérité éclate un jour?
Écoutez, comme tel, c'est un dossier qui est relativement circonscrit je pense qu'on amène, nous tous, quand même une somme d'expérience et d'expertise à ce dossier-là. Évidemment, toute juridiction a les moyens qu'ils ont, qui sont toujours trop limités par rapport, entre autres, à l'ampleur de la tâche, mais je pense qu'il y a effectivement moyen d'arriver à la vérité si on s'y applique.
Au cours de l'audience de lundi, l'auditeur militaire qui représente le ministère public a dit que c'était un dossier complexe. Est-ce que vous avez le même sentiment?
Oui, c'est un dossier complexe au sens où quand même un dossier d'assassinat d'au moins 2 personnes et peut-être 6 avec l'implication, semble-t-il, de plusieurs personnes. C'est un dossier majeur que dans n'importe quelle juridiction on considérait majeur, dans n'importe quelle juridiction, enfin, selon mon expérience, auquel on assignerait des ressources assez significatives. Et effectivement, je pense que la tâche est importante.
Le procès pourrait prendre plusieurs mois encore?
Encore là, je ne peux pas me répondre. Ça sera aux autorités congolaises, à la fois au procès et à la fois à l'enquête, il y a 2 dossiers, de voir à leur procédure.
Robert Petit, merci beaucoup.
Merci.
trois provinces de l'est du pays. Les deux Kivu et l'Ituri vivent toujours dans l'insécurité permanente, selon les résultats du 15e sondage réalisé dans ces régions avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD. Joseph Makamba Dibalaya du Bureau de l'Information publique de Ocha à Kinshasa l'a annoncé au cours de la conférence de presse des Nations Unies mercredi dernier. Un extrait de ses propos recueillis par Honoré Missinga Kalala.
Les populations du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri continuent de vivre dans l'insécurité avec son lot d'assassinats, kidnappings, arrestations arbitraires, répressions violentes, démarches pacifiques et d'autres violations des droits humains. C'est ce qui ressort du 15e sondage sur la perception de la sécurité et la consolidation de la paix et la reconstruction à l'est de la République démocratique du Congo selon le programme des Nations Unies pour le développement. Les résultats indiquent également l'insécurité économique marquée par le chômage des jeunes, le faible pouvoir d'achat, les conflits fonciers, la vente des produits périmés. La mauvaise gouvernance est l'un des faits relevés sur le plan politique lors de ces sondages.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Et à propos de la sécurité dans l'est du pays, suivez cette question concernant Rutshuru et bien évidemment la réponse de Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO.
Justin Kabouma, je travaille pour Afrique Médian et Congo Synthèse, correspondant à ST. Et ma question, c'est vraiment sécurité. Je la pose par rapport aux affrontements. Il faut souligner que le territoire de Rutshuru s'est réveillé dans une psychose totale. On signale qu'il y a eu des affrontements, il y a des personnes inconnues qui se sont affrontées au FRDC. Nous voulons avoir une précision là-dessus. Merci.
Je ne vais pas pouvoir vous donner tous les détails promptement, mais effectivement, la situation dans le Nord Kivu, d'un point de vue sécuritaire, demeure une préoccupation pour la mission. Bon, évidemment, il y a le cas de Beni, mais il y a aussi d'autres poches d'insécurité avec la présence de groupes armés et aussi, conformément à notre mandat, le soutien de la MONUSCO aux opérations des FRDC afin de pouvoir effectivement rassurer les populations civiles qui vivent sous la menace. Donc oui, c'est une situation que nous connaissons et à laquelle, avec nos ressources et moyens disponibles, nous essayons de sécuriser les populations qui vivent sous la menace.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, chers auditeurs. Mon nom est Patricia Cello. Je suis célibataire, licenciée en anglais, en linguistique et culture africaine et américaine aussi. J'ai fréquenté l'IPEN et l'ISP, l'IPEN où j'ai fait le graduat et l'ISP où j'ai fait ma licence. J'étais à l'Institut Mukengeli de Limba comme professeur d'anglais. J'ai eu l'occasion de prester à 11 promotions depuis 1994 jusqu'en 2006 où j'ai dû quitter à cause de changement de carrière et puis j'étais empêchée parce que je ne pouvais pas faire les deux à la fois. Travailler à la MONUSCO comme consultante, aussi à Mukengeli. Voilà, j'ai dû faire un choix parce que dans la vie, ça arrive qu'on fasse deux choix. J'ai dû intégrer, comme je le disais, en 2004, la MONUSCO comme consultante. J'y allais prester des cours et ça m'a permis de aussi faciliter les staffs de Nations Unies à facilement s'intégrer. J'ai aidé les staffs à remonter leurs compétences linguistiques parce que c'est un environnement multiculturel où on a eu à contacter plusieurs gens de différentes cultures et tout le monde n'est pas francophone comme vous le comprenez. Et là, j'ai dû travailler comme ça jusqu'en 2006 où j'ai eu mon intégration parce que j'ai dû postuler comme admin et là je fais l'administration et la formation en même temps. Je suis au centre de la MONUSCO qui s'occupe de la formation. En anglais, c'est le IMTC, le Integrated Mission Training Center. Je m'occupe là de la formation, de l'administration en même temps. Le but, c'est vraiment le renforcement de capacité des staffs. On sillonne là où la MONUSCO est dans tous les secteurs en renforçant les capacités des staffs. Voilà, c'est ça notre travail. Concernant la musique, j'aime plus Mozart et Beethoven. Je l'ai appris de mon père. Voilà. J'aime le football et j'aime manger des légumes. J'ai commencé aussi à aider les enfants parce que dans mon église, je suis à l'Écodim et là, j'aide les enfants à remonter leurs valeurs et ça, j'aime beaucoup. Comme projet d'avenir, j'aimerais m'occuper plus des enfants et ensuite avoir plusieurs formations et faire plusieurs certifications afin d'être à la hauteur tout le temps, comme je le disais. C'est un besoin qui a toujours brûlé mon cœur et j'aimerais aussi changer d'option de temps en temps parce que j'aime la diversité. Un grand coucou aux auditeurs qui m'ont suivi. Je leur dis merci pour l'intérêt qu'ils ont porté à cette tranche d'émission et spécialement aux gens qui me connaissent et à tous les Limbiens. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Trois dates à retenir pour cette semaine. Le 10 septembre, ce sera la journée mondiale de la prévention du suicide. Le 12 septembre, c'est la journée internationale des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. Et le 15 septembre, c'est la journée internationale de la démocratie. C'est la fin du magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en ondes par Noël Mokondo. Honoré Missenga Kalala était au reportage et à la réalisation. Jean-Pierre Lali Coco au reportage également et à la coordination sous la supervision de Martin Sibujangwe. On vous dit à bientôt sur Radio Capi. Ciao.